1978. Maurice attrapa une couverture sur l'étagère du haut dans le placard de la chambre et en couvrit Rothstein, maintenant affalé en biais dans le fauteuil, le sommet du crâne en moins. La cervelle qui avait conçu Jimmy Gold, sa sœur Emma, leurs parents narcissiques et semi-alcooliques, tellement semblables à ceux de Maurice, séchait maintenant sur le papier peint. C'était pas un choc pour Maurice, pas exactement. Mais c'était assurément une surprise. Il s'attendait à du sang et un trou entre les yeux, mais pas à cette expectoration écœurante de cartilage et d'os. Manque d'imagination, supposa-t-il. La raison pour laquelle il pouvait lire les géants de la littérature américaine contemporaine, les lire et les apprécier, mais n'en serait jamais un. Freddy Doe sortit du bureau, un sac marin plein à craquer à chaque épaule. Curtis le suivait, tête basse, sans rien dans les mains. Tout à coup, il accéléra, contourna Freddy et se précipita dans la cuisine. Le vent fit claquer la porte donnant sur le jardin de derrière contre le mur de la maison, puis on entendit quelqu'un vomir.
« Il se sent pas très bien, »
dit Freddy. Il avait toujours eu le don d'énoncer l'évidence.
« Toi, ça va ?» demanda Maurice. « Ouais. »
Freddy sortit par la porte de devant sans se retourner, s'arrêtant juste pour ramasser le pied de biche posé contre la balancelle du porche. Il s'était préparé à entrer par effraction, mais la porte d'entrée était ouverte. La porte de la cuisine aussi. Apparemment, Rothstein avait placé toute sa confiance dans le coffre-fort Gardal. Tu parles d'un manque d'imagination. Maurice passa dans le bureau, regarda la table de travail en ordre et la machine à écrire recouverte de sa housse. Regarda les photos au mur. Les deux ex-épouses étaient là, souriantes, jeunes et belles en vêtements et coiffures des années 50. Que Rothstein garde ces femmes répudiées là, d'où elles pouvaient le regarder écrire, avait quelque chose d'intéressant. Mais Maurice n'avait pas le temps de méditer la question, ni d'explorer le contenu du bureau de l'écrivain, ce qu'il aurait sincèrement adoré faire. Mais quel intérêt ? Il avait les carnets, après tout. Il avait le contenu de l'esprit de Rothstein. Tout ce qu'il avait écrit depuis qu'il avait cessé de publier, 18 ans auparavant. Freddy avait emporté le stock d'enveloppes de liquide dans le premier chargement. Évidemment, l'argent était tout ce que Freddy et Curtis comprenaient. Mais il restait encore plein de carnets noirs sur les étagères du coffre-fort. C'était des Moleskines, comme en utilisait Hemingway. Comme Maurice en avait rêvé pendant qu'il était en maison de correction, où il avait aussi rêvé de devenir écrivain. Mais au centre de détention pour mineurs de Riverview, la ration était de 5 feuillets de grossier papier Blue Horse par semaine. Pas vraiment suffisant pour commencer à écrire le grand roman américain. En mendier davantage n'avait rien arrangé. La fois où il avait offert à Elkins, le délégué de l'Economa, de lui tailler une pipe pour une dizaine de feuilles supplémentaires, Elkins lui avait collé son poing dans la figure. Ça avait quelque chose de comique quand on pensait à tous les actes sexuels auxquels on l'avait forcé au cours de ses 9 mois de détention, le plus souvent à genoux, et plus d'une fois avec son caleçon sale fourré dans la bouche. Il tenait pas sa mère pour entièrement responsable de ses viols, mais elle méritait sa part de reproche. Anita Bellamy. La célèbre professeure d'histoire dans le livre sur Henry Clay Frick avait été nominée pour le prix Pulitzer. Tellement célèbre qu'elle croyait aussi tout savoir sur la littérature américaine contemporaine. C'était une dispute à propos de la trilogie Gold qui l'avait fait sortir un soir, furieux et résolu à se saouler. Ce qu'il avait fait, même s'il était mineur et que ça se voyait. Ça lui réussissait pas de boire. Quand il buvait, il faisait des trucs qu'il se rappelait pas ensuite, et c'était jamais des bons trucs. Ce soir-là, ça avait été effraction, vandalisme et agression sur un agent de sécurité du quartier qui tentait de le neutraliser en attendant l'arrivée des flics. Ça faisait presque 6 ans, mais le souvenir était vif. Tout ça avait été tellement idiot. Voler une voiture, aller faire un tour en ville avec, et puis l'abandonner. Peut-être après avoir copieusement pissé sur le tableau de bord. C'était une chose. Pas très malin. Pourtant, avec un peu de chance, on pouvait se tirer de ce genre d'embrouille. Mais entrer par effraction dans une maison de Sugar Heights, doublement idiot.
Il ne voulait rien dans cette maison, du moins rien qu'il ait pu se rappeler par la suite. Et lorsqu'il voulait vraiment quelque chose, lorsqu'il offrait une pipe pour quelques feuillets pourris de papier Blue Horse, point dans la gueule. Alors il s'était marré, parce que c'était ce que Jimmy Gold aurait fait, du moins avant que Jimmy devienne adulte et vende son âme au diable pour le billet d'or, comme il disait. Et il s'était passé quoi ensuite? Deuxième point dans la gueule, encore plus fort. C'était en entendant le craquement étouffé de son nez qu'il s'était mis à pleurer. Jamais Jimmy n'aurait pleuré. Il était encore en train de contempler avidement les Moleskines quand Freddy Dow revint avec les deux autres sacs marins. Il avait aussi un bagage à main en cuir éraflé. « J'ai trouvé ça dans le cellier, au milieu de genre un milliard de boîtes de haricots et de thon. Va savoir, hein. Bizarre, le type. Peut-être qu'il se préparait pour l'acropolypse. Allez, Maurice, bouge-toi. Quelqu'un a pu entendre le coup de feu. Il n'y a pas de voisin. La ferme la plus proche est à 3 kilomètres. Relax. Les prisons sont pleines de types qui étaient relax. Faut qu'on se tire d'ici. »
Maurice commença à rassembler les carnets par poignées, mais ne put résister à l'envie d'en ouvrir un, juste pour être sûr.
Oui, Rothstein était un type bizarre, et il n'était pas totalement impossible qu'il ait bourré son coffre-fort de carnets vierges, se disant qu'il pourrait peut-être écrire quelque chose dedans un jour.
Mais non. Celui-ci au moins était saturé de la petite écriture soignée de Rothstein. Toutes les pages remplies, de haut en bas et de gauche à droite, avec des marges minces comme des fils. N'était pas certain de savoir pourquoi ça comptait pour lui et pourquoi il n'arrivait pas à trouver le sommeil alors que le wagon vide de ce train de marchandises nocturne l'emportait à travers l'oubli du monde rural en direction de Kansas City et du pays endormi au-delà, le ventre plein de l'Amérique au repos, sous son traditionnel édredon de nuit, et pourtant les pensées de Jimmy s'obstinaient à revenir vers...
Freddy lui frappa sur l'épaule, et pas gentiment. « Sors ton nez de ce truc et emballe. On en a déjà un qui est en train de gerber toutes ses tripes et qui sert à peu près à rien. »
Sans un mot, Maurice jeta le carnet dans un des sacs et referma les mains sur une autre double poignée de carnet. Ses pensées embrasées de possibilités. Il en avait oublié le carnage sous la couverture dans le salon. Oublié Curtis Rogers vomissant ses tripes dans les roses, zinnia, pétunia, ou peu importe ce qui poussait dans le jardin de derrière. Jimmy Gold, partant vers l'ouest, dans un wagon de marchandises. Rothstein n'en avait pas fini avec lui, en fin de compte.
« Ceux-là sont pleins, » dit-il à Freddy. « Emporte-les. Je vais mettre le reste dans l'attaché-caisse. Ça s'appelle comme ça, ce genre de sac ?»«
Je crois, ouais. »
Il ne croyait pas, il savait.
« Vas-y, j'ai presque fini. »
Freddy suspendit les sacs à ses épaules par leurs sangles, mais s'attarda un instant.
« T'es sûr pour ces trucs ?»« Parce que Rothstein a dit... »« C'était rien qu'un écureuil qui essayait de protéger ses réserves. Il aurait dit n'importe quoi. Vas-y. »
Freddy y alla. Maurice chargea la dernière fournée de Moleskine dans l'attaché-caisse et se recula pour sortir du placard. Curtis était debout à côté du bureau de Rothstein. Il avait enlevé sa cagoule. Ils l'avaient tous enlevé. Il était blanc comme un linge, et le choc avait laissé des cercles noirs autour de ses yeux.
« T'étais pas obligé de le tuer? T'étais pas censé le tuer? Ça faisait pas partie du plan? Pourquoi t'as fait ça ?»«
Parce qu'il m'a fait me sentir idiot. Parce qu'il a insulté ma mère et que ça, c'est mon boulot. Parce qu'il m'a appelé gamin. Parce qu'il méritait d'être puni pour avoir fait passer Jimmy dans l'autre camp. Surtout parce que personne n'a le droit, avec un talent pareil, de le cacher au reste du monde. Sauf que Curtis comprendrait pas ça.
Parce que ça augmentera la valeur des carnets quand on les vendra.
C'est-à-dire pas avant qu'il les ait lus d'un bout à l'autre. Mais Curtis comprendrait pas non plus le besoin de faire ça. Et il avait pas besoin de savoir.
Pas plus que Freddy.
Il prit un ton patient et raisonnable.
On est maintenant en possession de toute la production de John Rothstein qui a jamais existé. Ça rend les trucs inédits encore plus précieux. Tu comprends ça, non ?
Curtis se gratta une joue pâle.
Ben, ouais, j'imagine.
Et puis comme ça, il pourra jamais dire que c'est des faux quand ils sortiront. Ce qu'il aurait fait, juste pour se venger. J'ai pas mal lu sur lui, tu sais.
à peu près tout ce qu'on peut lire. Et c'était un rancunier, ce fils de pute. Ouais, mais bon...
Maurice se retint de dire. C'est un sujet trop profond pour un esprit aussi superficiel que le tien, Curtis. À la place, il souleva l'attaché-caisse.
Prends ça, et garde tes gants jusqu'à ce qu'on soit en voiture. Quand même, t'aurais dû nous consulter, Maury. On était partenaires.
Curtis commença à partir, puis se retourna.
J'ai une question.
Quoi?
Tu sais s'ils ont la peine de mort dans le New Hampshire?
Ils prirent des routes secondaires pour traverser les trois cheminées du New Hampshire et passer dans le Vermont. Freddy conduisait la Chevrolet Biscayne, qui était vieille et quelconque. Maurice était assis à côté de lui, une carte Rand McNally dépliée sur les genoux, allumant de temps en temps le plafonnier pour vérifier qu'il n'avait pas dévié de l'itinéraire prévu. Pas besoin de rappeler à Freddy de respecter les limitations de vitesse. Il n'en était pas à son premier rodéo. Curtis était allongé sur la banquette arrière, et ils l'entendirent bientôt ronfler. Maury le trouva bien chanceux. C'était comme s'il avait vomi l'horreur. Lui, par contre, il lui faudrait sûrement du temps avant de retrouver une bonne nuit de sommeil. Il n'arrêtait pas de revoir la cervelle dégoulinée sur le papier peint. C'était pas le meurtre qui l'obsédait, c'était le talent gâché. Une vie entière à l'affûter et le modeler, et tout ça détruit en une fraction de seconde. Toutes ces histoires, toutes ces images. Et ce qui était sorti ressemblait à du porridge. Alors, à quoi bon?
Donc, tu crois vraiment qu'on va pouvoir les vendre, tous ces petits bouquins qu'il a écrits?
Demanda Freddy. Voilà qu'il remettait ça.
Pour une bonne somme, je veux dire?
Oui.
Sans se faire choper?
Oui, Freddy, j'en suis sûr. Freddy se tut si longtemps que Maurice crut le sujet clos. Puis il le rouvrit, en deux mots, froid et sec.
J'en doute.
Plus tard, à nouveau sous les verrous, mais pas au centre de détention pour mineurs cette fois, Maurice se dirait « C'est à ce moment-là que j'ai décidé de les tuer. » Mais parfois, la nuit, quand il n'arrivait pas à dormir, le trou du cul poisseux et brûlant d'une sodomie au savon parmi tant d'autres dans les douches de la prison, il reconnaîtrait que c'était pas la vérité. Il avait su depuis le début. C'était des cons et des criminels de longue date. Tôt ou tard, probablement plus tôt que tard, l'un d'eux se ferait choper pour autre chose et la tentation serait forte d'échanger ce qu'il savait de cette nuit-là contre une peine moins lourde, voire pas de peine du tout. Je savais qu'il devait disparaître. Point, se dirait-il par ces nuits carcérales où le ventre plein de l'Amérique reposait sous son traditionnel édredon de nuit. C'était inévitable.